chemin de vie. Chers auditeurs, nous sommes heureux de partager ces 30 minutes en votre compagnie. Comme tous les jours, du lundi au vendredi, votre rubrique chemin de vie est fidèle au rendez-vous, à cette même heure. Au micro, Heidi.
En compagnie de Jean et bien sûr de Daniel à la technique. Alors Heidi, de quoi Jacques Yosti, notre infatigable chroniqueur de la Bible, va-t-il nous entretenir aujourd'hui ?
D'abord, je vous rappelle que nous parcourons le livre des Proverbes, qui se trouve au milieu de la Bible dans l'Ancien Testament. Nous finissons le chapitre 22 et lirons également le 23. Comme depuis plusieurs jours, cette exploration nous conduira encore sur le chemin de la sagesse. Jacques nous en dévoilera quelques facettes après cette chanson de George Eliot intitulée « Oui, je veux te suivre ».
Oui, je veux te suivre, suivre tes pas dans la nuit. Mène-moi où tu veux que je sois, conduis-moi.
Les yeux fermés, je peux te voir.
Oui, je veux te suivre, suivre tes pas dans la nuit. Mène-moi où tu veux que je sois. Conduis-moi.
Voici à genoux devant toi, ma vie tout entière est à toi.
De ma propriété se trouve une barrière qui était déjà en place quand nous avons acheté le terrain, et à l'autre bout il y a un piquet. Ces témoins et la route qui passe devant chez nous délimitent ce qui nous appartient. Notre quartier est tranquille. Il n'est donc pas concevable que par une nuit bien noire un voisin vienne déplacer ses marquages. Mais il existe des situations où une telle fourberie serait faisable. Je continue à lire dans le chapitre 22 des Proverbes. « Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. » Verset 28. Quand l'Éternel donna le pays de Canaan aux Hébreux, le tirage au sort attribua à chaque tribu un territoire qui lui était propre. Puis chaque clan reçut en héritage une propriété qui était balisée par des monceaux de cailloux. Les Écritures interdisent le déplacement de ces limites à 6 reprises. Je lis un passage. « Vous ne déplacerez pas les bornes qui marquent les limites de la propriété de vos voisins qui auront été fixées par les premiers arrivés. » Fin de citation. Un homme sans scrupules aurait pu profiter de la faiblesse de son voisin malade ou vieux et qui n'avait pas de fils pour agrandir son terrain en déplaçant ses bornes, ce qui est évidemment une façon de voler son prochain. Si on considérait ces limites dans un sens figuré, on pourrait dire que le cadre de notre société, qui était jadis judéo-chrétien, n'a cessé au fil des années d'être déplacé au point où aujourd'hui il n'existe même plus. Dieu a été remplacé par l'homme qui est devenu une fin en soi. La morale, la science et la théologie libérale commencent et finissent avec l'homme. Cette situation a créé des problèmes quasi insolubles et les solutions proposées sont toujours les mêmes. Elles sont d'ordre sociologique, psychologique ou économique, mais c'est encore plus de la même chose qui a déjà été essayée et qui a échoué. En fait, notre problème est d'ordre spirituel et il nous faut revenir aux valeurs judéo-chrétiennes des Écritures pour sortir de l'impasse. Je finis le chapitre 22. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Verset 29. Les textes sacrés nous donnent plusieurs exemples d'hommes qui, à cause de leurs dons, entrèrent au service d'un monarque. Ainsi, Joseph, fils de Jacob, devint grand vizir d'Égypte. David fut au service de Saül, premier roi d'Israël. Hiram, un artisan hors pair de la ville de Tyr, se distingua lors de la construction du temple de Salomon, et le prophète Daniel fut conseiller de rois babyloniens et perses. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas la quantité de travail fourni, mais la fidélité à la tâche qui m'a été confiée. C'est vrai pour la maman qui change les couches à longueur de journée et le père qui va tous les jours à l'usine. Qui met du cœur à l'ouvrage et devient habile dans sa branche sera reconnu et élevé. À ceux qui ont été intègres et qui ont obéi au commandement du Seigneur d'un cœur pur, Jésus dira « Très bien, tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. » Entre dans la joie de ton maître. Fin de citation. Je commence maintenant à lire le chapitre 23. Si tu es à table avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu es un glouton. Ne te laisse pas tenter par ces bons plats. C'est une nourriture trompeuse. Versets 1 à 3. Lorsque tu es avec du beau monde, contrôle-toi. Montre-toi humble, tempéré et modéré. Le sage ne se laissera pas prendre à l'hospitalité condescendante d'un hôte prestigieux, car elle est certainement intéressée ou trompeuse. Je continue le texte. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que déjà elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Versets 4 et 5. Il n'y a aucun mal à bien gagner sa vie par son travail à condition qu'il ne devienne pas ma raison d'être. Aux yeux des sages, amasser des richesses est un jeu qui n'en vaut pas la chandelle parce qu'elles sont très incertaines. C'est aussi ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, avant de conclure par « Là où est ton trésor ?» Là sera aussi ton cœur. Fin de citation. L'argent est en tête du hit parade des idoles de notre monde moderne matérialiste. En anglais, on dit « un tel vaut tant », ce qui revient à égaler une personne avec son compte en banque. Comme n'importe quel vice, l'argent peut se retourner contre moi, alors il me poursuivra jour et nuit, absorbera toujours davantage de temps et d'énergie, finira par éclipser tout le reste, et je lui deviendrai entièrement soumis. C'est un peu comme le chameau proverbial qui met d'abord sa tête dans la tente, puis un pied, et d'un seul coup, il n'y a de place que pour lui. Ailleurs, dans un autre livre, Salomon écrit « Voilà un homme seul, sans personne d'autre. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin. Même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et prive mon âme de bonheur? C'est une vaine manière de vivre et un souci malsain. J'ai vu sous le soleil une calamité affligeante. Il arrive que les richesses conservées par un homme viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires, et il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. » Fin de citation. Je continue le texte. « Ne te laisse pas inviter par l'œil malfaisant, et ne convoite pas ses bons plats, car au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Le morceau que tu as mangé, tu devras le rendre, et c'est en pure perte que tu auras tenu des propos aimables. » Versets 6 à 8. Il s'agit d'un homme radin, envieux, méchant et l'opposé de l'homme généreux du proverbe. L'œil bienfaisant sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Fin de citation. Cet affreux personnage ne supporte pas le bonheur d'autrui. C'est en serrant les dents qu'il a organisé ce semblant de fête pour paraître généreux et parce qu'il manigance quelque chose. Il va poser des questions à son invité et utilisera ses réponses contre lui. Une fois que l'hôte se rend compte du manège et à qui il a affaire, les aliments ne passeront plus et ceux qu'il a déjà avalés voudront ressortir. Si je suis invité à dîner par quelqu'un que je connais mal et que, pour une raison ou une autre, je ne me sente pas la liberté de refuser, je resterai sur mes gardes et agirai comme l'hôte qui, à la table d'un roi, met un couteau à sa gorge. Je continue le texte. « Ne parle pas à un insensé, il mépriserait le bon sens de tes paroles. » Verset 9. Il s'agit d'une brute épaisse qui est bornée au point où c'est une pure perte de temps et un exercice de frustration que d'essayer de le raisonner. Je continue. Ne déplace pas les anciennes bornes et n'empiète pas sur les champs des orphelins, car ils ont un puissant protecteur qui défendrait leur cause contre toi. Versets 10 à 11. Cette escroquerie a déjà été mentionnée. Voler une partie de la propriété du voisin en déplaçant ses limites est déjà un acte crapuleux. Mais agir ainsi envers des orphelins est odieux, et cette bassesse sera punie. Je continue. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à la connaissance. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plus tôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. Versets 12 à 14. Plusieurs autres proverbes portent sur la discipline de l'enfant. Corriger ne veut pas dire faire du gosse le souffre-douleur de parents frustrés qui lui administrent une raclée pour passer leur nerf ou parce qu'il est pénible. Je lis un passage du Nouveau Testament. « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » Fin de citation. Les coups ont pour but d'instruire et de faire pénétrer la loi morale de Dieu dans l'enfant. Ainsi éduqué, dans un climat bienveillant, il apprendra la crainte respectueuse de l'Éternel qui mène à la sagesse et à la vie. Je continue. « Mon fils, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Quand tu parleras avec droiture, tout mon être exultera. » Versets 15 à 16. Plusieurs proverbes soulignent qu'un fils sage et obéissant fait la joie des parents. Je continue. « N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps révère l'Éternel, car il y aura un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. » Versets 17 à 18. On a déjà vu le proverbe Révérer l'Éternel mène à la vie, et comblé, on passe même la nuit à l'abri du malheur. Fin de citation. Et plus loin, un autre dit, « Ceux qui font le mal n'ont pas d'avenir, et la vie des méchants s'éteindra. » Je continue le texte. « Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage. Dirige ton cœur dans le droit chemin. Ne t'associe pas à des ivrognes, ni à ceux qui aiment la bonne chair, car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère, et ceux qui somnolent seront bientôt vêtus de haillons. » Verset 19 à 21. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est très connu. Cet avertissement est surtout pour les jeunes. Quelqu'un de sensé marche droit, il n'est ni un ivrogne, ni un glouton. Les insensés, par contre, filent du mauvais coton. Ils ont pour Dieu leur ventre, et engourdis par leurs excès, ils tombent dans une paresse stuporeuse chronique qui les rend incapables de faire face à leurs dépenses extravagantes. Le paresseux est frère du mendiant. Je continue. Écoute ton père qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère devenue âgée. Verset 22. Les proverbes et d'autres passages des Écritures exhortent fréquemment les jeunes à l'obéissance, à la soumission et au respect des parents parce que, de la plus tendre enfance à l'adolescence, ils ont la fâcheuse tendance à ne vouloir en faire qu'à leur tête. Un commandement de la loi dit « Tu te lèveras devant ceux qui ont des cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard, c'est ainsi que tu révéreras ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Dans une famille normale, même un jeune qui poursuivrait la sagesse n'aurait pas l'expérience de la vie de son père ou de sa mère. Ça va de soi. Alors, s'il a la moindre jugeote dans sa petite tête de linotte, il n'hésitera pas à prendre conseil auprès de ses vieux parents, parce qu'ils peuvent encore lui enseigner beaucoup de choses qui relèvent du bon sens et du savoir-faire ici-bas. Je continue. Acquiers la vérité et ne la revends pas. Pareil pour la sagesse, l'instruction et le discernement. Verset 23. Dans un autre livre de sagesse, nous lisons « L'Éternel dit à l'homme, la crainte respectueuse du Seigneur, voilà la vraie sagesse. Se détourner du mal, voilà l'intelligence. » Fin de citation. Les grandes questions de la vie, pourquoi je suis sur terre, d'où je viens, où irai-je après la mort et à quoi ressemble l'éternité, turlupinent les philosophes depuis toujours. Les réponses à ces interrogations ont une valeur inestimable et acquérir une telle connaissance mérite tous les sacrifices et toutes les dépenses. Pourtant, elles sont gratuites. Il suffit de les désirer et de les demander au Seigneur. Je lis un passage. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. » Et même vous, qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. » Fin de citation. L'eau, le vin et le lait sont pour le corps ce que la vérité, la sagesse, la connaissance des valeurs éternelles sont pour l'âme. Sous le régime actuel de la Nouvelle Alliance, la sagesse de Dieu a été spécifiquement révélée en Jésus-Christ. Je lis deux passages. Grâce à Dieu, vous êtes unis au Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. Nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent, et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Fin de citation. Je continue le texte. Le père d'un juste est au comble de la joie. Celui qui a donné la vie à un fils sage est heureux. Puisse ton père et ta mère se réjouir à ton sujet. Donne cette joie à celle qui t'a mis au monde. Versets 24 et 25. Ce passage est le miroir du proverbe précédent. Mon fils, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Je continue le texte. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies, car la prostituée est une fosse profonde et la femme adultère un puits étroit. Comme un brigand, elle se tient aux aguets et elle amène bien des hommes à être infidèles. Verset 26 à 28. L'auteur nous ramène dans la première partie du livre des Proverbes où il a lourdement insisté sur les dangers que posait la femme séductrice et qui ont encore été rappelés dans le chapitre précédent. Décidément, ce devait être un aussi gros problème en Israël qu'il l'est aujourd'hui chez nous. On a fait un film sur Samson, un personnage qui apparaît dans les Écritures. Il aimait trop les femmes et ça s'est mal terminé. Dalila, une jolie Philistine dont il était fou amoureux, l'a trahi. Il a fait l'amère expérience que décrit Salomon quand il dit « J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » Fin de citation. Je continue le texte. Pour qui les a? Pour qui les malheurs à moi? Pour qui les querelles? Pour qui les plaintes? Pour qui les coups sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui restent jusque tard à boire du vin? Pour ceux qui sont en quête de vin parfumé? Versets 29 à 30. Pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, l'ivrogne se pose 6 questions sur les problèmes d'ordre émotionnel, social et physique qu'il rencontre quand il est ivre. Ce début d'un petit poème de 7 versets en 17 vers est complètement en dehors du cadre habituel des maximes. C'est aussi la plus longue et la plus détaillée des descriptions des excès d'alcool des proverbes. Mais on trouve beaucoup de condamnations de cet abus dans d'autres livres. Par exemple, « Malheur à vous qui courez de bonne heure après les boissons enivrantes et qui vous attardez le soir excité par le vin. » Malheur à vous qui êtes des héros quand il s'agit de boire et des champions pour vous gorger d'alcool. Fin de citation. Les Spartes de la Grèce antique avaient coutume de mettre en scène un homme complètement saoul devant leur fils afin de leur montrer l'état dégradant dans lequel l'alcool réduit un homme, espérant ainsi les en dégoûter. Je continue ce poème. Ne couve pas de tes regards le vin vermeil quand il brille de son éclat dans la coupe. Il descend si aisément mais finit par mordre comme un serpent et te piquer comme une vipère. Versets 31 à 32. Ça me rappelle les mises en garde du sage contre la femme séductrice. Je lis le passage. Les lèvres de la femme adultère distillent des paroles mielleuses et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la fin qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Fin de citation. Le vin du Liban est d'une riche teinte dorée. Quelquefois, on en rehausse encore la couleur avec du safran. Dans le domaine de la boisson, comme avec le beau sexe, il faut se méfier de la convoitise des yeux et de la chair. Avec sa couleur vermeille attrayante, le vin fascine, surtout quand il étincelle à la lumière et on a plaisir à le boire car il flatte le goût. Mais l'excès d'alcool engendre des conséquences fâcheuses et même la mort. Précédemment, Salomon a dit « Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Celui qui s'en laisse griser ne pourra être sage. » Fin de citation. Je continue ce poème. « Tes yeux verront alors des choses étranges et tu laisseras échapper des paroles incohérentes. Tu auras l'impression d'être couché en pleine mer, ballotté comme un matelot en haut d'un mât. » Versets 33-34. L'alcool entraîne des problèmes mentaux et physiques. La personne ivre éprouve des hallucinations et titube en marchant, ce qui lui fait croire qu'elle est en bateau sur une mer déchaînée. Je finis le chapitre 23 des Proverbes. « On me frappe, diras-tu, mais je n'ai pas mal. On m'a roué de coups, je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je? Il faudra que je trouve encore quelque chose à boire. » Verset 35. Pour le simple plaisir de mal faire, il n'est pas rare pour des hooligans désœuvrés de tabasser un ivrogne qui traîne dans la rue. Mais à cause de son état de stupeur, il est insensible à la douleur. Il croit rêver ce qui lui arrive et n'a qu'une idée en tête, prendre un verre quand il se réveillera. La mémorisation de ce poème devrait faire partie, à mon avis, des programmes de désintoxication des alcooliques.
Chanter comme Dieu, titre interprété par le groupe Harmonie. Mais le temps passe vite, et nous voici déjà à la fin de notre demi-heure. Si vous souhaitez recevoir gratuitement le texte de ce jour ou des précédents, ou bien nous poser quelques questions, appelez pendant les heures du bureau au 0820 200 628.
C'est un numéro Indigo, 0820 200 628. Notre site internet est aussi à votre disposition, chemindevie.info, chemins au pluriel et le tout attaché, chemindevie.info. Au revoir.
À demain pour une autre rubrique.